Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, l'actualité commentée par Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Datacalab. Je suis réarrivée, quasiment. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, éditorialiste sur Sud Radio, le mercredi matin. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine.
Bonjour
Judith. Plusieurs thèmes aujourd'hui. Pour Emmanuel Macron, les Français seraient responsables de la victoire de Marine Le Pen. C'est une interview qu'il a accordée hier à Quotidien et on va vous faire réécouter le son qu'on a entendu ce matin déjà dans le zapping. Macron-Le Pen, il semblerait que le match soit plié si l'on en croit à la fois la presse, les sondages. Et puis pour 14% des Français, l'élection serait truquée. Je reçois des messages dans ce sens sur le Facebook de Sud Radio. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Arnaud Benedetti. On va finir avec vous parce que c'est un sujet que je voulais évoquer. Qu'on voulait évoquer. Judith, on va commencer avec vous alors.
Moi, c'est un coup de gueule contre un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, qui vient de libérer la Porte Saint-Denis dans le 10e arrondissement parisien pour les gens qui ne connaissent pas, qu'ils ont occupé depuis dimanche, salopé, il n'y a vraiment pas d'autre mot, avec des tags du genre « mort à la démocratie néolibérale ». Ils ont saccagé des publicités, du mobilier urbain, des panneaux publicitaires. Ils ont obligé un McDo et un KFC à fermer. Ces gens-là, que la fondatrice des Verts allemands qualifie de secte, persuadée que la fin du monde va arriver et décidée à l'accélérer, considèrent que la démocratie, c'est quand les gens votent comme ils veulent eux. Qu'ils votent. Voilà, donc ils ont occupé l'espace public, donc ils se sont...
Bloqués la circulation.
Bien sûr.
Ravitaillés.
Bus, voiture.
Oui, ravitaillés par un camion, comme l'a fait remarquer Aurélien Véron.
Absolument.
Pour le ravitaillement, bon vieux camion plutôt que des vélos cargo, faut pas déconner quand même. On bloque effectivement la rue.
C'est mon coup de gueule ou c'est
allez-y,
le vôtre?
Allez-y, mais j'allais...
En fait, elle prend tous les coups de gueule.
Voilà.
Voilà. Et en fait, je voudrais élargir ça à tous ces gens qui considèrent que finalement la démocratie c'est rien du tout, genre les étudiants qui occupent la Sorbonne, qui dégradent et qui saccagent les ordinateurs, les archives, les livres, et tout ça sous l'œil extrêmement bienveillant de l'autorité publique. Il n'y a pas eu du tout de tentative pour arrêter ces dégradations. Je suppose que la période électorale explique qu'on laisse s'épanouir 1000 petites ZAD avec leur punk à chien etc. Et je trouve ça inouï.
Ouais. Si, il y a eu un soutien de Monsieur Béliard, qui a trouvé
Mairie de
formidable,
Paris. Comme Hidalgo avait soutenu en 2019 l'occupation de la place du Châtelet, qui avait là aussi entravé la liberté de circulation de milliers de Parisiens et de provinciaux.
Ouais, ces gens-là sont des citoyens comme vous et la police n'a rien dit, donc effectivement, on les
a laissés... En toute impunité, et bien sûr, le nettoyage va être assuré à nos frais par des pauvres
nettoyeurs qui vont faire ça.
Femmes de ménage, qui vont remercier ces joyeux rebelles du surcroît de travail qu'ils leur ont procuré.
Le but, c'était d'installer une grande agora sur la lutte contre le réchauffement climatique durant tout le week-end de Pâques. Je vous encourage à aller voir les images du désastre, de ce qui reste de ce week-end, de ces vitrines taguées. Puis la Sorbonne, on peut en dire un mot quand même, Arnaud Benedetti.
Ce sont une minorité.
Oui, mais ce sont des ordinateurs.
40 000 étudiants de la Sorbonne, fort heureusement, ce sont 400 à 500 étudiants qui, mercredi dernier ou jeudi dernier, ont occupé une partie des locaux de la Sorbonne. Oui, c'est assez. Finalement, le vote ne leur plaît pas. Il faut changer de vote.
Voilà.
Vous savez,
changer le peuple.
C'est Bertold Brecht. Il faut changer le peuple.
Mais c'est un peu l'ambiance actuelle. Hein.
Oui, mais c'est un peu une ambiance générale et qui est assez équanimement répartie. Oui, en effet, bon, il y a ça se rencontre à l'extrême gauche, mais en fait, on accepte de moins en moins la démocratie dans ses résultats, ouais, je trouve. Absolument. Et ça, c'est assez inquiétant. Je trouve que c'est une dérive, indéniablement.
Oh, c'est absolument. Franck Tapiro. De toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de dérives et il y a tellement de. On parlait tout à l'heure de la campagne qui est aujourd'hui, pour moi, la première de la cinquième, hein, une campagne perdue. En fait, tout le monde est perdant. Bon, les Français sont perdants, les partis sont perdants, personne n'a gagné. Il y aura une victoire, je l'espère, forte de Macron par rapport à Marine Le Pen, mais ce sera une victoire aussi par défaut quelque part, et pas par envie. Et ça, c'est un peu dommage. Je trouve que les Français méritent aujourd'hui d'une élection un peu plus énergique, un peu plus positive, un peu plus enthousiaste, un peu plus optimiste. Et aujourd'hui, malheureusement, regardez tous les candidats, même les deux en finale, on a l'impression qu'il n'y a pas le même engouement que les années précédentes. Moi, je le dis, emmerdé pendant cette campagne. C'est une campagne par défaut. Il n'y a pas de Front Républicain, on le voit. Il y a peut-être un front anti-Macron que Marine Le Pen essaie de créer, mais elle n'y arrivera pas. Moi, j'en appelle finalement, c'est ça mon coup de gueule de la journée, un front responsable. Il y a une irresponsabilité de tous les politiques qui ont gagné ou perdu, surtout ceux qui ont perdu. Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce qu'on pense, est irresponsable. Je vais vous le dire pourquoi. Tous les candidats LR sont irresponsables. Pourquoi ? Parce qu'aucun n'est clair. Comment peut-on, à quelques jours d'un scrutin si important que celui-là, dire il faut qu'il y ait moins de votes pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, sans dire il faut voter Emmanuel Macron.
Mais est-ce que ça a un sens aujourd'hui de dire il faut voter
au moins le dire,
machin
mais ça ne veut pas dire que les gens vont le suivre. Mais quand on est un responsable, quand on se dit responsable politique, il y a un mot en trop. C'est le mot responsable. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les voix dans votre poche, les électeurs ne vont pas agir en claquant quand vous claquez les doigts. Mais au moins, quand vous avez une forme de responsabilité morale par rapport à une certaine vision, que vous soyez de gauche ou de droite, vous ne devez pas vous tromper, vous devez être clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune clarté. La clarté, c'est dire votez Macron. C'est pas voter contre Marine Le Pen ou abstenez-vous, votez blanc.
Bah, ou votez ça ne sert à rien. Ou votez Marine Le Pen. Il n'y a pas énormément de gens qui ont dit
complètement, absolument.
Qui ont dit votez Marine Le Pen.
Mais je préfère ça. Je préfère des gens qui disent clairement voter Le Pen ou voter Macron, mais tous ceux qui appellent à voter Nini, etc., ce ne sont pas des responsables politiques. Il faut enlever ce mot-là.
Allez.
Donc la responsabilité n'est plus là.
On va en débattre dans un instant avec vous sur Sud Radio. A tout de suite, c'est l'heure du journal.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Dataca Lab, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » aux éditions du Cerf, et Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde moderne et éditorialiste, sur Sud Radio. Mais vous êtes toujours dans l'actualité avec vos livres, c'est vraiment cela. Macron-Le Pen, le match est-il plié ? On vous a aussi posé la question ce matin sur le côté partisan de la presse. On voit Le Monde, Le Parisien qui font vraiment haro sur Marine Le Pen. Est-ce que c'est le rôle de la presse ? C'est une question qu'on vous pose. Et puis, on pourrait parler également de cette phrase d'Emmanuel Macron : les Français seraient responsables de la victoire de Marine Le Pen. Alexis Poulain, on ne vous a pas entendu sur ce que disait Franck Tapiro juste avant sur la lâcheté, l'irresponsabilité des gens de gauche qui n'appellent pas à voter.
Et de droite.
Et de droite, et mais de c'est droite. Ça. Des gens qui ne donnent pas de consignes.
Mais pourquoi ? Ça date de quand les consignes en réalité ? Il faut rappeler que le vote se fait à bulletin secret dans un isoloir. Depuis quand, en fait, on a des injonctions comme ça de dire aux gens il faut voter ça, il faut voter ça ? Depuis 2002, depuis le fait qu'il faut faire un barrage républicain au Front National devenu Rassemblement National. C'est tout ce qui reste finalement pour atténuer encore le peu de démocratie défaillante qui nous reste. À un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je suis d'accord avec Franck Tapiro. Soit on vote Le Pen, soit on vote Macron. On peut aussi choisir de voter blanc parce que, il n'y a aucun des deux candidats qui nous va. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. Quand l'offre est aussi piteuse, on comprend qu'il y ait beaucoup de Français qui refusent finalement de manger à la cantine.
Sauf qu'il y en a un qui va être élu. Il y en a un des deux qui va être élu.
Il y en a un des deux qui va être élu et ce sera une élection misérable. Peu importe qui sortira des urnes, on a une France divisée. On a deux projets clairs qui sont sur la table. D'un côté, davantage d'intégration européenne avec ce qu'on connaît de Madame von der Leyen et de la suite. Et de l'autre, un camp nationaliste qui veut au contraire temporiser un peu tout ça avec de la xénophobie qui fait que Marine Le Pen va être perdante parce que tant qu'il y aura ce fond de xénophobie dans le programme de Marine Le Pen, ce sera un épouvantail, un repoussoir. Et évidemment, si on tolère un parti pendant toute l'année en disant qu'il a sa place dans le débat démocratique, pourquoi, dès qu'il est question d'une élection, ce parti devient démoniaque? Il y a un problème là. Il y a un jeu sémantique qui se fait en l'espace de 24 heures, 48 heures systématiquement. Donc le problème est là. C'est qu'à un moment, le Front National de Jean-Marie Le Pen n'avait pas lieu d'être un parti. Il y a eu des déclarations à l'époque de Le Pen père qui auraient disqualifié ce parti pour toujours. Or, il est resté dans le jeu. À l'époque, c'était François Mitterrand et le Parti Socialiste qui l'utilisaient comme épouvantail. Ouais. Aujourd'hui, c'est un parti qui est quasiment hégémonique dans certaines régions, dont les idées ont infusé toute la société au point d'avoir plusieurs candidats qui reprenait ses idées xénophobes, dont Éric Zemmour. Donc voilà où on en est. Donc le jeu démocratique, il permet ça. Donc si maintenant on dit, finalement c'est trop compliqué, il faut faire un barrage tous les 5 ans, il n'y a plus de démocratie. On appelle ça le Parti communiste français, ou Parti unique, je ne sais pas comment vous voulez. On a un chef, c'est Emmanuel Macron, il est indéboulonnable pour 25 ans, et puis on obéit, c'est contrôle social, et on y va. Et on n'appelle plus ça la France, ni une démocratie. Il n'y a pas de problème.
Il y a eu de la démocratie, il y a eu une élection. Il y a plusieurs choses à dire là. Alors, si Marine Le Pen à prospérer, c'est parce que les autres partis gauche et droite lui ont laissé le monopole de la défense de la laïcité, que quand elle faisait le lien entre immigration et délinquance, les autres de droite et de gauche hurlaient, comme vous venez de le faire, à la xénophobie et au racisme. C'est pour ça qu'elle a prospéré, Marine Le Pen, parce qu'elle a travaillé des sujets et des terrains sur lesquels personne n'osait s'aventurer, sinon pour la diaboliser. Le succès de Marine Le Pen, c'est ça.
Elle a prospéré sur d'autres sujets. Elle a bien évidemment prospéré sur les questions régaliennes que vous citez, mais elle a aussi prospéré sur les questions économiques et sociales. Souvenez-vous, en 1995, il y a un président de la République qui va se faire élire, Jacques Chirac, sur le thème de la lutte contre la fracture sociale et sur le fait qu'il faut relancer l'ascenseur social. In fine, ce dont on s'aperçoit, on est quoi, en 2022, c'est-à-dire 25 ans après, que la fracture sociale n'a cessé, et la fracture territoriale n'a cessé de s'élargir. La crise des Gilets jaunes en étant, me semble-t-il, l'un des exemples les plus frappants. Et l'ascenseur social est vraiment en panne. Il y a des études qui sont faites, notamment par le Civipof et d'autres institutions de recherche sur l'opinion, qui montrent bien qu'aujourd'hui, vous avez une grande partie de l'opinion publique qui n'est plus en mesure, finalement, de considérer que l'avenir de ses enfants sera supérieur au sien. Donc ça veut dire que quelque part, le politique a échoué. Et évidemment, Marine Le Pen, de ce point de vue-là, quand on regarde la carte électorale, la carte électorale du non à Maastricht, c'est la carte électorale du non au traité constitutionnel européen, et c'est la carte électorale des Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement les questions, j'allais dire, d'identité qui nourrissent le logiciel politique de Marine Le Pen, et d'ailleurs elle l'a très bien compris parce qu'elle ne fait pas campagne là-dessus, objectivement. Elle fait campagne essentiellement sur des questions économiques et sociales. Elle est un peu aujourd'hui rattrapée dans l'entre-deux-tours. Mais c'est ça le vrai sujet aujourd'hui.
Il n'y a pas de contradiction d'ailleurs entre...
Je ne vois pas de contradiction,
moi, pas du tout, entre laisser justement les gens s'exprimer, quelles que soient leurs idées, c'est ça la beauté de la démocratie, et puis aussi, c'est aussi la démocratie qui à un moment se réveille et se dit, maintenant en phase d'élection, il faut peut-être aussi faire le tri entre ce qui a été dit, ce qui a été abandonné aussi par Marine Le Pen, parce que c'est extraordinaire. Le grand remplacement, c'est elle qui le fait. Elle a remplacé une candidate qu'on appelle Marine Le Pen aujourd'hui par la vraie de 2017. Mais le grand remplacement, regardez, 100% de ses idées ont miraculeusement, comme par magie, disparu. Pouf ! En un coup de baguette magique, on se dédiabolise, on fait des bisous, on aime les chats, on vit en coloc. C'est The Voice, c'est plus The Choice. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui. C'est une personnalité. Mais oui, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donnez-moi une action politique. Ah oui, on va me dire, oui, le pouvoir d'achat, c'est faux. C'est pas elle qui l'a repris, c'est elle qui a repris les études qui existaient depuis bien longtemps déjà, qui disaient déjà, en anticipant, que le pouvoir d'achat allait être dans les préoccupations des Français.
Elle n'est pas la seule à dire ça, tous les politiques
exactement.
Le font.
Exactement. Et quelle est l'action? Alors, parlons de son action. Elle propose le panier de la ménagère avec 100 prix bon, bloqué. Ouais. Mais c'est la chose la plus absurde que tous les économistes vous diront. Si on bloque les prix, on bloque la distribution, la fabrication, tout, on bloque tout, on tue l'économie. Donc, même sur une mesure, on va dire, qu'elle a, on va dire, repris, et sur laquelle elle surfe, elle donne une mauvaise idée. Mais il faut se réveiller. Donc, moi, je trouve ça bien.
Voilà, vous faites Franck, la République, c'est ça. Franck est en campagne. Je crois pas que ce soit vraiment le rôle de l'émission.
C'est pas le rôle de l'émission.
Oui, Alexis.
Il faut lire la tribune de Marine Le Pen dans le Figaro aujourd'hui, où elle termine justement sur la question de l'héritage, en disant que le projet qu'elle porte, c'est de dire on sera fiers du pays qu'on laissera en héritage à nos enfants. Donc, elle est sur ce thème de l'héritage, en réalité. Elle est sur ce thème de la transmission. Et c'est sûr que, moi, ce qui me fait doucement marrer dans ce jeu démocratique, c'est que à aucun moment on parle du vrai sujet, c'est comment on fait pour rembourser une dette de 600 milliards d'euros sans politique austéritaire, une fois Marine Le Pen ou Emmanuel Macron élus. C'est
d'accord.
Ça, la vraie question. C'est quoi le programme?
Oui,
là,
c'est que votre réponse, on ne la rembourse
pas. Même pas une question posée sur la politique austéritaire qui va nous tomber dessus parce qu'on est en déficit jusqu'au cou et qu'on va pas faire sans ça. C'est ça le vrai sujet. Derrière tout ça, c'est du décorum, c'est du théâtre, c'est pour occuper le français moyen. La vérité, c'est qu'on va payer très cher le quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est la faute à Emmanuel Macron.
Votre coup de gueule, on va reparler évidemment des deux candidats, mais votre coup de gueule, Alexis ?
Ah ben mon coup de gueule, c'est sur McKinsey, parce qu'on a arrêté d'en parler, mais il faut encore en parler. Le scandale des cabinets de conseil, c'est un scandale d'État. Pourquoi ? Parce que McKinsey, ce cabinet de conseil dans la stratégie vaccinale, conseillait également la branche vaccin de Pfizer. Si ça, c'est pas du conflit d'intérêt patenté, avéré, alors la Cour de justice de la République va pas pouvoir enquêter là-dessus. Elle enquête uniquement sur le parjure de l'associé gérant de McKinsey qui disait que la boîte payait des impôts en France. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui conseille à la fois le fabricant et à la fois l'État qui va organiser l'injection. C'est scandaleux. Dans le cas de la crise des opioïdes aux États-Unis, hein, où des médicaments à base d'opium ont créé une épidémie de morts dans le pays. McKinsey conseillait la boîte Purdue qui fabriquait ces médicaments et également derrière les pharmaciens en disant s'il y a des morts, c'est pas grave, recommander des médicaments, c'est génial. Donc on est là dans un conflit d'intérêts quasiment avéré. On ne va rien faire. On fait comme s'il fallait plus en parler. D'ailleurs, Olivier Véran essaye de blaguer en parlant de Moscou Conseil quand Jordan Bardella lui met le nez dans la gamelle en disant Monsieur Véran, ce que vous avez fait est scandaleux. Il ne répond pas. C'est un vrai scandale. J'aimerais que ça aussi, on en reparle parce que c'est proprement inimaginable d'avoir des cabinets de conseil qui prennent ce poids-là dans la gestion des affaires publiques, sachant en plus qu'ils conseillent.
Ah, on a perdu la. On est coupé. La censure. La censure.
Je suis du conseil depuis 30 ans.
Alors, excusez-moi. Rapidement, on va pas refaire.
Non, mais surfer comme ça sur une écume alors qu'on parle de faits et vous avez habilement fait une corrélation entre les deux. Je fais du conseil depuis 30 ans. Quand on choisit une boîte, surtout comme McKinsey qui n'est plus connue au monde, et là, je suis pas là pour les défendre. Je vous parle de conseil, de mon métier. On prend en général des gens qui connaissent par cœur le sujet sur lequel. Non seulement on les interroge, mais sur un problème d'urgence. Remettez-vous ces deux dernières années, la problématique justement de l'application du vaccin était tellement, tellement compliquée. D'ailleurs, pendant 3 mois, ils se sont trompés de stratégie, ils ont refait une nouvelle stratégie. Ça, vous l'avez oublié, ça, Alexis. Mais pendant 3 mois, ils se sont plantés. Et ils sont revenus après avec une stratégie un peu plus pragmatique, et ça a fonctionné. Donc, in fine, c'est peut-être parce qu'ils avaient, et encore une fois, j'ai dit peut-être, je suis pas là pour les défendre, mais je fais du conseil, parce qu'ils avaient une expérience plutôt positive peut-être avec Pfizer, qu'ils ont pu réorienter leur stratégie et faire en sorte que vous, moi et que tout le monde puissions être vaccinés en temps et en heure. Et finalement, ça a été une réussite. Donc, arrêtons de voir aussi le mal partout. Essayons de se dire qu'en conseil, plus vous avez une expérience dans un domaine, plus on vous sollicite, c'est totalement normal.
Oui, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'argent, ce milliard
l'année dernière. On en a parlé la dernière fois. Je parle juste de ce point-là.
Un milliard d'euros en dépenses de cabinet sur une année, ça fait quand même beaucoup. Compte tenu du nombre d'experts qu'on a, je veux dire, au niveau de l'État, quand même, on a des corps d'inspecteurs. Ça pose un petit problème. Le problème, moi, je pense que un point sur McKinsey. Sur Pfizer, je ne sais pas, mais sur McKinsey, le vrai problème, c'est la porosité qui existe entre un certain nombre de gens qui travaillent sur McKinsey, qui travaillent chez McKinsey et d'autres qui ont quand même travaillé pour La République En Marche. Ouais. Là, il y a un vrai sujet. Quand le directeur des études de La République En Marche passe chez McKinsey, là, il y a quand même un petit problème, je pense.
Oui, sauf qu'on sait très bien que les élites sont consanguines en France. C'est la particularité du système français et ça a des conséquences pas seulement sur une éventuelle collusion ou confusion des intérêts, ça a des conséquences sur le fonctionnement.
Je peux finir, Arnaud ? Voilà, excuse-moi, pardon.
Ça a des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement de la société française, hein, cette consanguinité. Sinon, sur McKinsey, moi je redis ce que j'ai déjà dit, le problème c'est le doublon. Où l'État est efficace et ça justifie son nombre de fonctionnaires exponentiel, ça a encore augmenté sous Emmanuel Macron, où il n'est pas efficace, on prend McKinsey, mais on réduit le nombre de fonctionnaires.
Allez, petite pause et puis il y aura votre coup de gueule, je ne vous ai pas oublié. Arnaud Benedetti, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on évoquait le débat de demain et le son que nous a passé.
La longueur de la table.
Voilà, la longueur de la table de 1m50.
C'est Poutine en fait. On se moque de Poutine avec 50 femmes, mais finalement demain, c'est un Poutine light.
2m50, c'est très loin.
Et oui, face à face. En fait, moi, je regarde vraiment le côté émotionnel et les Français d'ailleurs regardent depuis toujours ce débat de second tour pour être émus, pour choper quelque chose, pour qu'ils aient vraiment une vibration. C'est pas uniquement technique avec des chiffres, rappelez-vous ce que Giscard avait planté avec son paperboard. Mais à 2m50, l'émotion, elle est où? Parce que l'émotion, c'est la relation, c'est du contact, c'est quelque chose de quasi physique.
Mais ça va être dans les caméras. On a entendu qu'il y avait 27 caméras.
En fait, ils vont les rapprocher par l'image, mais sûrement, non pas par les corps.
Sûrement pas.
Pour moi, c'est une erreur.
Arnaud Benedetti, un coup de gueule.
Oui, c'est un sujet que vous voulez qu'on évoque. Coup de gueule qui a finalement un lien avec le sujet précédent sur McKinsey. C'est que le journal officiel a publié ce lundi de Pâques, donc 18 avril, la suppression, le décret supprimant le corps diplomatique. Enfin, le corps diplomatique. Une catégorie du corps diplomatique.
Alors, expliquez.
C'est-à-dire ce que l'on appelle les ministres plénipotentiaires, c'est-à-dire les ambassadeurs, hein, pour aller très vite, pour l'essentiel, et les conseillers des affaires étrangères. Donc, quelle est l'idée qu'il y a derrière cette suppression? C'est l'idée d'une réforme de la haute fonction publique qui est défendue par Emmanuel Macron. C'est de finalement créer un espèce de pot commun de l'administration où vous avez également la suppression du corps préfectoral, les préfets, les diplomates, les inspecteurs des finances qui vont finalement être dans un pot commun, et l'idée, c'est finalement que ces gens sont interchangeables. C'est-à-dire qu'en fait, un diplomate peut être préfet, un préfet peut être diplomate, un inspecteur des finances peut être demain diplomate, etc., etc. Bon, ça pose un vrai problème d'abord, parce qu'il y avait quand même une capacité d'expertise au Quai d'Orsay qui est quand même essentielle et qui fait la force de la diplomatie française, qui est quand même, en termes de monde, la deuxième diplomatie du monde. Donc ça, on l'a vu, hein, par exemple, quand même, notamment lors de la deuxième guerre d'Irak, le rôle qu'a joué la diplomatie française dans la prise de décision politique, en alertant quand même sur les danger qu'il y aurait à suivre les Américains. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, ça traduit quoi? C'est quand même une volonté chez Emmanuel Macron d'ubériser la haute fonction publique. C'est-à-dire que le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'on dispose en France d'une spécificité, d'une singularité, qui est celle d'avoir une armature d'État. Alors, on peut bien évidemment discuter sur le côté parfois inamovible de cette haute technostructure, sur sa difficulté à s'adapter à un certain nombre de situations. Ça, je suis tout à fait d'accord et je partage ce type de critique. Mais la réalité, c'est que quand même, la force de cette technostructure, c'est de disposer d'une expérience, d'une compétence, d'une expertise également, qui est à nul autre pareil. Et on voit bien que d'ailleurs, le Quai d'Orsay était opposé à cette réforme. Hein. Le ministère des Affaires étrangères était opposé à cette réforme.
Évidemment, il se protège lui-même.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir le système américain, c'est-à-dire le spoil system. Ça veut dire qu'on va nommer demain ceux qui auront été les bienfaiteurs de la campagne de M. Macron, ambassadeur à Washington. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit quand même le meilleur moyen d'avoir une diplomatie qui soit efficace et qui soit surtout au service de l'intérêt général.
Pardon. Le spoil system, c'est un système qui consiste à nommer des gens qui vous sont acquis.
Oui,
politiquement. Oui. Et pas des gens qu'on veut récompenser, des gens qui vous sont acquis et qui appliqueront la politique que vous avez décidée et pour laquelle vous avez été élu. Moi, je préfère ça, je suis désolée, à l'entre-soi des grands corps de l'État, qu'on aère un peu sous des alibis diversitaires, mais en fait, ça ne marche pas. Et le corps diplomatique s'est fait une spécialité d'être une charge transmissible. Regardez combien d'ambassadeurs sont issus de familles où il y avait des diplomates ou des ambassadeurs, c'est effarant.
Non, donc, mais ça, je suis d'accord. Oui.
Ah bah oui, alors donc, non, mais c'est, si voulez, c'est peut-être oui, oui. une mauvaise réponse, mais
non,
la
mais
question
je suis pas
est
sûr
bonne.
Que ça soit, voilà, c'est ça. C'est que je pense que c'est une très mauvaise réponse à une vraie question. La reproduction sociale des élites, ça a été démontré par Pierre Bourdieu en son temps. Il parlait de l'aristocratie d'État. Il avait parfaitement raison. Le problème, en l'occurrence, c'est bien sûr de permettre aujourd'hui l'accès, j'allais dire, dans des règles, dans des conditions de fonctionnement qui sont ceux, finalement, de la neutralité de l'État. Ben, en effet, de profils nouveaux. Mais ce n'est pas en démantelant les grands corps de l'État qu'on va vraisemblablement améliorer le fonctionnement de l'administration en France et de la haute administration.
Mais on a vu à un moment qu'Emmanuel Macron avait voulu nommer un écrivain consul à Los Angeles, ça ne l'empêchait pas.
Lever le bouclier.
Ça s'est toujours fait,
oui.
Ça.
Oui. Ben oui, mais qu'est-ce que ça va changer
c'est,
ça, oui. Franck Tapiro, vous avez un avis là-dessus?
Un avis, ouais. En fait, ouais. C'est assez étonnant que cette mesure arrive juste là, en ce moment. Mm. C'est quand même assez étonnant, entre les deux tours. Mais oui, non, mais Pâques, entre les deux tours. Ouais. C'est quand même assez curieux, en général, il se passe peu de choses en termes de changements, de grandes modifications, même si on sait, bien entendu, et ça, on sent que ça le démange, parce que ça fait 5 ans, quand même, qu'il attend cette transformation, c'est même pas une réforme, c'est une reconstruction, repenser complètement la haute administration, cet état profond qui avait été dénoncé, on en avait parlé ici, par David Listard, entre autres, dans une tribune du Figaro, qui avait été vraiment un avant-après.
Remarquable,
parce qu'il avait vraiment posé, vraiment, voilà on est parce que je disais souvent, pour en parler en blaguant, en disant que ça fait 25 ans, 30 ans que les politiques disent qu'ils vont renverser la table. Dans le meilleur des cas, ils changent la nappe. Et encore une fois, ils se donnent l'illusion de changer la nappe. Tout ça parce qu'on n'a pas agi sur l'état profond. Donc, encore une fois, moi, j'attends de voir comment cette mesure assez surprenante peut aider à réellement transformer en profondeur, reconstruire, repenser notre haute administration. Donc pour moi, c'est à suivre. Ouais. Maintenant, je peux entendre techniquement ce que vous me dites.
Alexis Poulain.
Le problème de la dislocation des grands corps d'État, c'est que vous avez certes le corps diplomatique, mais vous avez la préfectorale, plein de corps qui sont non pas l'État profond, mais qui sont en temps de tempête des pouvoirs stables ou des contre-pouvoirs qui permettent de garder la tête sur les épaules. S'aborder les grands corps d'État, c'est s'aborder l'État. Ça va avec la logique de payer des cabinets de conseil pour finir le job. En réalité, le projet d'Emmanuel Macron, c'est de s'aborder l'État français au profit, bien sûr, des cabinets de conseil, parce que ça coûte moins cher, au final, de payer au cas par cas des expertises plutôt que d'avoir des fonctionnaires. Il le dit lui-même, on ne va pas prendre un fonctionnaire pour toute une carrière, le former, etc., notamment dans la haute technologie. On va faire appel au conseil. Donc, ça va exactement dans le même mouvement qui est l'hôpital de flux. On a vu ce que ça a donné, l'hôpital de flux. Moins de lits, c'est quoi? C'est moins de services, c'est un hôpital malade. Eh bien, moins d'État, c'est quoi? C'est un État malade. Et c'est la porte ouverte à toutes les mafias et à tous les systèmes qui vont permettre de préempter finalement ce qu'était l'intérêt général pour en faire de l'intérêt particulier. Ce n'est pas un projet qui, moi, m'enchante.
C'était le cri du cœur étatiste d'Alexis Poulain.
Voilà. Vive l'État. Une fois n'est pas coutume. Je vous propose qu'on change de sujet et peut-être qu'on peut écouter Emmanuel Macron hier qui répondait à nos confrères de Quotidien. Alors, il a fait C'est à vous et Quotidien en même temps.
Quel homme ?
Oh, quel homme, absolument. Écoutez ce qu'il disait quand on lui posait la question de savoir s'il serait responsable d'une élection de Marine Le Pen.
Si Marine Le Pen est élue le 24, c'est une option à prendre en compte. Ce sera la faute de qui ?
Des Françaises et des Français. Enfin, vous me faites rire, c'est la démocratie. C'est un choc.
Vous, pas d'autocritique, si demain, c'est pas votre image qui apparaît à 20h.
Moi, je me bats. Donc d'abord, moi, je suis jamais dans la politique fiction. Je me bats pour y arriver, pour gagner.
Parfois, vous dites jamais, j'ai participé à banaliser l'extrême droite en France. Est-ce que vous dites ça peut arriver?
Oui, alors ça, allez plutôt chercher chez des gens qui ont expliqué pendant des mois et des mois les théories du grand remplacement et tout le toutim. Hein. C'est pas chez moi que vous avez entendu ces mots et que vous avez entendu ces idées-là.
Par exemple, c'est vrai.
Voilà. Bon, la question est orientée. Considérer que l'élection de Marine Le Pen serait une faute, dont il faudrait rechercher les responsables, c'est déjà prendre parti contre Marine Le Pen. Normalement, quand on interviewe le président de la République, on n'est pas dans une posture partisane, normalement. Donc là, Emmanuel Macron, face à une question biaisée, s'en est tiré comme il pouvait. Effectivement, si Marine Le Pen est élue, les Français seront responsables de son élection. Ils l'auront choisi.
Mais heureusement,
c'est une tautologie.
Mais heureusement qu'ils sont responsables. Enfin, il a une réponse du président de la République. ne pas dire cela aurait été une faute grave. Mmh. Ça veut dire qu'il y a d'autres. Alors là, on serait rentré encore une fois dans le complotisme et trucage. Bah, évidemment qu'on est tous responsables de notre vote. Les Français sont, en plus, avec notre
scrutin. Vous comprenez ce qui sous-tend la question.
Bien entendu, mais il parle de à ce moment-là, c'est biaisé. Évidemment, je suis totalement d'accord avec Célie Judith. La question est très mal posée. C'est, in fine, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, pouvez-vous considérer qu'il y a une responsabilité de la part de la classe politique et de vous-même sur d'abord son ascension, etc., mais sur le vote, Dieu merci, les Français sont 100% responsables. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je posais un coup de gueule contre l'abstention, etc.
Sauf que moi, je vois les réactions de nos auditeurs qui disent dehors Macron, ça suffit Macron. Ouais. Donc, s'ils votent Le Pen, c'est aussi parce qu'ils considèrent que Emmanuel Macron n'a pas fait le job ou que l'insécurité n'a pas été réglée.
C'est le scrutin qui veut ça en deux tours.
Oui, c'est le scrutin. Mais pourquoi vous votez Le Pen alors que vous votiez Macron ou LR fois précédente ?
Il a dit hier que les Français éliminaient souvent au second tour. Il a dit où on vote pour, où on élimine. Et c'est très bien qu'il y a un travers des Français depuis quelques années dans les élections où, en général, on choisit au premier et on élimine au second.
Enfin, il vous a pas échappé, on a parlé avec Frédéric Dabi hier, que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'a jamais... Oui, il se creuse, mais il n'a jamais été... aussi rapproché. Revenez-vous de Jacques Chirac,
c'était pas Marine Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen.
Oui, c'était Jean-Marie Le Pen, mais c'est quand même un score de Marine Le Pen aujourd'hui qui est...
Mais si la question est-ce qu'Emmanuel Macron est responsable de son échec, la réponse est oui.
Non, mais d'abord, la première, c'est le choix des Français. D'ailleurs, c'est pas une faute.
Oui, on discute pas. C'est une faute. Non, mais c'est la façon dont la question est posée.
La question est extrêmement tordue, extrêmement perverse. Donc, c'est un choix souverain d'un peuple souverain. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Hein. Sinon, on change de système. On peut décider finalement de choisir nos dirigeants d'une autre manière. Ensuite, moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, si vous voulez, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, en 2017, a dit. Il faudrait retrouver exactement ses déclarations, mais il a dit finalement si en 2022 le Rassemblement national est au second tour, ça sera mon échec.
Oui. Oui, c'est ça.
Alors c'est vrai que c'est en partie son échec, puisque in fine on constate que le Rassemblement national est toujours présent, qu'il fait un score quand même absolument considérable dans 22 000 communes sur 35 000. Marine Le Pen arrive en tête, elle est en tête chez les actifs, ce qui est quand même pas négligeable.
Absolument.
Ça, c'est extrêmement important. Quand vous prenez le résultat du vote, de 24 à 65 ans, elle est en tête. Hein. Donc, c'est les seniors, hein, beaucoup, qui votent pour Emmanuel Macron.
Et les actifs, donc, et les salariés, ce que disait Frédéric Dabi hier.
Bien sûr. Et donc, c'est la première quand fois. Même, d'une certaine façon, la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le quinquennat qui est le sien. Moi, je pense qu'en effet, si vous voulez, là où il est responsable, c'est que... In fine, il a eu un comportement qui est un comportement qui a profondément blessé une partie des classes populaires et des classes moyennes. Et ça, il le paye aujourd'hui de manière cash. La façon dont on a géré la crise des gilets jaunes, la façon dont on a décomplexé une certaine forme de racisme social depuis 5 ans, me paraît aujourd'hui aussi une des raisons finalement du renforcement du vote de Marine Le Pen. Il suffit encore là aussi de regarder la carte électorale.
On y revient dans un instant avec vous, Alexis Poulain. Je sens que vous bouillez d'impatience de répondre. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous, avec Franck Tapiro, Alexis Poulain, Arnaud Benedetti et Judith Weintraub. Alexis Poulain, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Qui est responsable de la montée de Marine Le Pen ? Est-ce que ce sont les Français ? Enfin, ce n'est pas la montée. Si elle est élue, et cette question que lui a posée le journaliste de Quotidien, est-ce que, à qui sera la faute ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs de toute façon. Effectivement, le double acte, le fait de dire good cop, bad cop systématiquement tous les 5 ans pour dire vous avez d'un côté la République et de l'autre un danger avec des lois anticonstitutionnelles, ça ne peut plus durer, les Français sont fatigués et je crois que là, on atteint la limite d'un truc en fait qui ne marche plus. La responsabilité, elle est partagée sur d'abord les politiques publiques. Il fallait peut-être prendre en considération davantage les politiques régaliennes de sécurité, les politiques aussi sur l'immigration, sur le débat identitaire. Oui. On a critiqué Nicolas Sarkozy parce qu'il voulait... tôt, avant que tout ça devienne un problème, poser la question d'identité. Aujourd'hui, on est en plein dedans, partout. Partout, c'est la question centrale. Donc, il fallait peut-être le faire au moment où on aurait pu avoir un débat apaisé sur la question. La responsabilité est multiple sur ce que disait Franck sur la nappe qu'on change, mais la table qu'on change pas. C'est-à-dire qu'on fait semblant, on fait comme si tout allait très bien, les idées deviennent des idées majoritaires, des pans entiers de la population sont abandonnés. La France périphérique, hein, on en parlait sur les employés, les ouvriers, mais aussi cette France qui n'est pas dans les radars, qui est aussi les grands perdants des politiques publiques depuis des années. On voit l'intégration européenne comme une chance pour beaucoup. C'est quelque chose qui leur passe à côté, très loin, ou qui ne sert à rien. Quand on a, par exemple, sur le pass vaccinal, interdit aux non-détenteurs de pass d'aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. Mais combien de Français n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens? Donc, il y a cette France invisibilisée qui est finalement la France des perdants, qui a peut-être envie de prendre sa revanche. Donc, c'est le fait de ne pas vouloir les voir. On parlait de ces élites auto-centrées, endogame, qui ne voit pas la France périphérique. Et c'est cette rupture-là qu'on voit dans ce duel systématique Macron-Le Pen. On peut remplacer les deux protagonistes, ça restera toujours la même rupture au sein de la société française. Et je ne vois aucun politique depuis la fracture sociale.
Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à les mobiliser totalement non plus.
Mais il l'a dit lui-même, faites mieux, parce qu'il n'a pas réussi. Lui, il a mobilisé les villes, les quartiers des villes, mais certainement pas cette France périphérique. Donc, il a tenté de le faire, mais il n'a pas réussi. Aujourd'hui, le vote de cette France périphérique, c'est majoritairement un vote Le Pen. Et il faut comprendre les raisons de ce vote et arrêter de dire à ces gens-là qu'ils font une faute, qu'ils ont tort, que c'est scandaleux de voter. Ils ont des raisons de voter, Madame Le Pen. Quelles sont ces raisons? Répondre à cette question, c'est peut-être commencer à avoir une politique d'apaisement, une politique aussi qui prend en compte ces Français qu'on ne veut pas voir et qui sont les perdants systématiques, finalement, des politiques publiques depuis des dizaines d'années. La casse des services publics, ça va dans ce sens-là. Ça va le fait de dire, j'ai plus de maternité à moins de 100 km, j'ai plus d'hôpital de proximité. Ça, c'est des perdants. Ça, c'est des gens qui en ont marre de ces politiques où on t'explique que l'hôpital de flux, c'est bien et que, il faut être flexible. Il faut changer de paradigme, il faut adapter son logiciel. Rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est un hôpital en bas de chez moi. C'est toutes ces politiques qui font qu'aujourd'hui, on a ce vote-là. Donc, la responsabilité est multiple. Et le fait de jouer avec le feu, parce qu'Emmanuel Macron sait très bien ce qu'il fait en se mettant face à Madame Le Pen, il pense qu'il va gagner très facilement. Bien, le fait de jouer avec le feu, à la fin, on se brûle, vous connaissez très bien. Donc, c'est aussi ça. C'est, à un moment, il faut arrêter de jouer.
Sur le côté, ce que disait Alexis Poulain, à savoir, on a dans cet entre-deux-tours vu la façon dont la presse et les différentes pétitions traitaient Marine Le Pen, et on en parlait entre nous pendant la pub. Est-ce que ça n'a pas l'effet inverse? Ça, c'est peut-être aux publicitaires que je m'adresse. Quand on voit la une du Parisien ce matin sur les failles de Marine Le Pen, c'est la une, c'est pas le projet comparé. Est-ce que c'est de l'info?
Alors en fait, c'est de l'info-pignon.
Oui.
S'il faut inventer un mot en général, surtout avec le Parisien, je connais bien, j'ai géré pendant longtemps sa communication.
Les cinq failles du projet de Marine Le Pen.
Oui, c'était le seul média d'information face aux médias d'opinion. Mais là, on va dire qu'il y a un contexte, bien entendu, particulier, mais tout le monde attaque non pas Marine Le Pen, mais son programme. Et le programme, vous pouvez regarder, que ce soit presse de gauche, presse de droite, tout le monde parle des failles du programme de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'information? Ou est-ce que c'est de l'opinion? C'est vraiment ça, pour moi, la dialectique. C'est de se dire, et je vais bien lire tous les papiers pour vous répondre, là, je ne l'ai pas lu, celui-là, mais pour savoir si vraiment c'est orienté ou pas.
Alors, je vais vous prendre. Je vais vous faire les dernières unes du Parisien. Alors, il y a eu « Des sportifs disent non à Marine Le Pen » en une. On a eu « Trop seul pour gouverner ». On a eu « Histoire d'une liaison dangereuse Marine Le Pen » Poutine, et puis ce matin les cinq failles. Donc en huit jours, on a cinq couvertures à charge.
Mais si on prend Emmanuel Macron et sur McKinsey, etc., je pense qu'elle ne peut pas être très très loin. Et puisqu'on parle sur Poutine, c'est vrai, ce lien avec Poutine, le fait que cette banque russe, d'anciens militaires...
Chèque racheté par des Russes.
Exactement, donc tout est vrai. Donc si encore c'était de l'intox, je vous dirais, c'est vraiment de la propagande, un peu comme Libé le fait de temps en temps, où leur une ressemble plutôt à un tract qu'à une de journal.
La une du Monde hier, Le Pen, un projet économique en trompe-l'œil, et en dessous, Macron tente de séduire l'électorat de gauche par l'écologie.
Alors on peut parler en effet du projet de Marine Le Pen, c'est tout à fait légitime qu'on essaye de disséquer et de discuter éventuellement des failles de ce projet, mais il faut aussi parler du projet d'Emmanuel Macron, et puis aussi surtout parler de son bilan, en l'occurrence. Et moi je trouve qu'en effet, aujourd'hui, la presse focalise beaucoup plus sur le projet potentiel dans ces derniers jours de Marine Marine Le Pen plutôt que de parler du bilan d'Emmanuel Macron. Et il y a beaucoup à dire sur le bilan d'Emmanuel Macron, à la fois sur le plan démocratique, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan social. Je trouve que tout ça passe un peu quand même à pertes et profits. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le projet de Marine Le Pen qui sont fausses. Moi, j'entends des fake news qui sont littéralement répandues par un certain nombre de membres du gouvernement sur l'inconstitutionnalité, par exemple, du recours au référendum. Mais en fait, l'article 11 de la Constitution de la Ve République le permet. Ça a été tranché depuis 1961. Le général de Gaulle, lorsqu'il décide de faire de l'élection présidentielle une élection présidentielle au suffrage universel direct, et là j'en parle d'autant plus que la revue politique et parlementaire à l'époque avait pris position contre, donc si vous voulez, je suis tout à fait libre de m'exprimer sur le sujet. Le général de Gaulle était passé par l'article 11. Or, Gaston Monnerville, qui était président du Sénat à l'époque, avait crié à la forfaiture. Mais cette question, elle a été tranchée par le peuple français. Donc aujourd'hui, nous ramener à un débat qui remonte à 70 ans, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'ahurissant de la part de gens qui se prétendent finalement des défenseurs de la raison, non, mais de la raison de l'argumentation politique. Donc il faut quand même se méfier de ce qui est dit aussi aujourd'hui contre Marine Le Pen. Moi, je conçois tout à fait qu'on critique Marine Le Pen, mais il faut trouver un peu d'équilibre. Et je ne trouve pas, en effet, depuis quelques jours, que la presse soit tout à fait équilibrée dans la façon dont elle aborde le sujet. Il y aurait des études quantitatives à faire là, sur la dernière semaine qui seraient très intéressantes, à mon sens.
Alors, nous, au Figaro, on veille beaucoup à ça. On veille à donner la parole aussi, ce qui est autre chose que l'exercice journalistique qui consiste à éplucher un programme que nous faisons également. Mais vraiment, on veille à cet équilibre, bien qu'ayant, dans un éditorial d'Alexis Brézet, expliqué que nous, on choisissait, le journal Le Figaro choisit Emmanuel Macron parce qu'il considère que le projet économique de Marine Le Pen n'est pas viable et plongerait la France dans un marasme encore plus grand que celui qu'elle connaît actuellement. Donc on a expliqué, on n'a pas appelé a expliqué et on essaye de faire notre journaliste de façon la plus équilibrée possible. Non, une chose juste que je voulais dire, avec toute cette diabolisation et toutes les élites qui montent au front, pour le jeu de mots, pour dire qu'il ne faut pas voter Marine Le Pen, je m'étonne que l'écart se creuse sans cesse à son détriment avec Emmanuel Macron, parce qu'il se passe exactement ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire la France des puissants, la France des riches, la France des en vue, des bien intégrés, qui s'en prend au vote des pauvres.
Donc cet écart vous étonne
ça ne fonctionne pas.
Ouais. Alexis ?
Oui, c'est parce que c'est ce fameux barrage qui fonctionne encore qu'un cas, puisque on continue à dire face à Le Pen, il faut la République. Mais pourquoi tout le reste de l'année on continue à faire comme si c'était comme si on lisait pas les programmes? En fait, on lit les programmes dans l'entre-deux-tours. Tiens, on va lire le programme. Ah, oulala, il y a des trucs bizarres. Fallait peut-être faire le boulot avant. Et je trouve ça assez honteux, effectivement, de voir les unes après les autres, que ce soit la presse de Bernard Arnault, mais aussi Libé, etc., qui font vraiment front commun pour dire « Attention, c'est les 12 plaies d'Égypte qui vont nous tomber dessus si jamais Le Pen est élu. » On a là, dans Libé aujourd'hui, une politique fiction où Dupont-Aignan serait Premier ministre de Madame Le Pen et où il déroule toute la politique qui aurait lieu. Enfin, c'est du délire. À un moment, on a compris. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ils avaient fait la une il y a de ça 5 ans. Ils vont faire la même sans doute samedi ou vendredi prochain. Je crois que oui, ça marche pas. Et pourtant, comme le dit Judith, ça fonctionne, l'écart se creuse parce que ça reste le même match et parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées par ce nanar. En fait, c'est un nanar qu'on nous revend, quoi. C'est-à-dire, c'est l'étuche 8. Bon, on a vu l'étuche une fois, 8 fois, c'est bon, quoi. On a
compris. Pas un nanar, l'étuche.
Non, c'est pas un
nanar. N'oubliez pas que l'étuche 3 ont inventé les gilets jaunes. Non, mais c'est pas
vrai,
une blague.
C'est vrai.
L'étuche 3 ont inventé les gilets jaunes. Ça, c'est la petite blague, mais c'est vrai. Moi, je voulais revenir sur la presse. On ne peut pas reprocher à la presse aujourd'hui de faire le boulot que les politiques ne font pas depuis des années. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur « on se réveille maintenant », c'est pas « on se réveille maintenant ». La presse essaie juste de parler de la réalité, c'est des programmes, des actions et de la vision de la France. Si les politiques, et ça, là on va être d'accord, pendant les 5 dernières années n'ont rien fait pour bloquer les idées, du Rassemblement National, c'est pas de la faute de la presse, c'est de la faute des politiques. Donc encore une fois, le décalage aujourd'hui, c'est normal, vous paraît plus grand, en disant, on a l'impression que la presse rattrape un petit peu les choses, c'est pas vrai. Elle est dans l'explication, dans l'information. Alors de temps en temps, évidemment, certains canards vont un peu trop loin, mais ce sont des tracts, comme Libé, qui aime bien...
Mais qui est un journal d'opinion.
Mais on le sait, c'est dans l'opinion. Mais, je suis désolé, ce sont les politiques qui n'ont pas fait le boulot de destruction, une à une, de toutes les idées du Rassemblement National.
Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème à terme. Si Emmanuel Macron est reconduit, ça donnera quand même le sentiment qu'il y a un parti unique qui est en train de s'imposer dans le pays. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que toute, j'allais dire, politique alternative à ce qui est proposé par Emmanuel Macron, aujourd'hui, est considérée comme finalement infaisable ou inacceptable.
Et disqualifiée, en fait.
Et disqualifiée, je veux dire. Ça, c'est pas un fonctionnement démocratique normal. Moi, je considère que, de toute façon, Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas un défenseur du libéralisme. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Je pense fondamentalement qu'il fait partie du clan des illibéraux. C'est un illibéral. Il n'est pas du tout libéral, Emmanuel Macron. Enfin, au sens où moi, je suis libéral. Pas du tout, en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est une vision unique de l'avenir de la société. La démocratie, c'est à un moment donné la possibilité de choisir.
Et de choisir
des politiques qui soient alternatives. C'est ce qu'ont fait les Français en 1981. Bon, ils ont choisi une autre politique, alors avec les conséquences que ça a eu pour le pays. Mais enfin, c'est quand même, encore une fois, je veux dire, la liberté des peuples de pouvoir le faire.
Mais 2017, ça a été ça, je suis désolé. Le choix d'Emmanuel Macron est exactement ce que vous décrivez. On a décidé qu'un jeune homme de 39 ans, qui faisait la politique depuis même quelques années, pouvait être président de la République sans parti, avec un mouvement.
Donc attention, c'est lui,
on a beaucoup
été le
peuple
français. Il est l'incarnation du système, tout en prétendant incarner le vote.
Non, mais je ne suis pas d'accord, je suis désolé, c'est facile aujourd'hui. Remettez-vous en 2017, il était
la personne
absolue de ce que vous décrivez. C'était les Français qui ont décidé de faire.
Vous pouvez lire ce que j'ai écrit en 2017, je disais qu'il était déjà le parti de l'ordre, mais, donc je n'ai pas changé là-dessus.
Peut-être, mais il incarnait cette nouveauté, il incarnait ce changement de registre.
En termes de marketing.
C'est l'heure de la pub, vous savez que c'est important, Franck Tapiro, la pub. On se retrouve tout de suite après, on en a un tout petit peu quand même.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio, on continue à débattre, on se laisse porter par les sujets, par cette discussion. On parlait de vous parliez de ce parti unique qui est devenu La République En Marche, enfin qui est devenu, le président de la République qui incarne aujourd'hui la seule...
Ben, ça va de Sarkozy à Hollande,
oui, c'est ça.
Au moins ils sont réunis sur une chose.
Alors quid de la gouvernance après s'il est élu? Faisons-nous aussi de la politique fiction.
La campagne présidentielle commence lundi matin. Il faut savoir vraiment que...
Législative.
Je dis présidentielle.
Présidentielle, il a bien choisi le mot.
La législative, on sait très bien, 2 mois, ça va être très compliqué, ça va beaucoup jouer dans la rue. Je pense que ces 2 mois vont être terribles parce que la gauche va se rattraper. Elle n'a pas pu le faire dans les urnes. Je pense qu'elle le fera dans la rue. On prend rendez-vous, vous allez voir, parce que 2 mois, c'est très long. C'est rare, 2 mois comme ça, c'est très très long. La légitimité du peuple français par rapport au vainqueur, on espère qu'elle sera là, mais la rue peut vraiment changer. Non, moi, je parle de la présidentielle la prochaine. Pourquoi ? Parce que déjà, Macron ne sera plus dans le jeu. Que la gauche n'existe plus, que la droite n'existe plus. Ouais. Le débat commence dès le lendemain, c'est le combat plutôt. C'est qui va se positionner, comment, quel parti, quel positionnement. J'espère en fait que toute la classe politique va prendre conscience à quel point cette élection, on l'a vu, cette campagne, de toute façon, est perdue pour tout le monde. Mais alors, à ce moment-là, comme tout est fini, peut-être, et comme je suis un éternel optimiste, c'est le moment des grandes idées, le moment des grandes visions, le moment des, peut-être des alliances intéressantes pour pouvoir proposer un choix qui ne sera pas The Voice, mais The Choice, comme j'ai dit tout à l'heure.
Mais qui n'ont pas eu jusqu'à maintenant. Pourquoi l'aurait-il maintenant? Parce que j'ai toujours une croyance
que le français est tellement politique. Il mérite des partis à son...
Ce qui est très frappant, c'est que l'élargissement que prétend opérer Emmanuel Macron, l'élargissement de sa majorité, est en fait un rétrécissement. Puisque comme en 2017, il n'envisage pas de nouer des alliances à bonne ligne du forme, ni de constituer une coalition qui pourrait être assise sur des alliances entre mouvements, entre partis à l'Assemblée nationale. Il envisage une structure pyramidale habituelle où finalement les seuls en marge seraient paradoxalement Édouard Philippe avec son mouvement qui refuse de se fondre dans la maison commune. C'est plutôt comique qu'Horizon incarne l'alternative à Emmanuel Macron. Donc ça laisse des pans entiers de la souveraineté populaire non représentés, parce qu'aux législatives, la France insoumise, reproduisant la même erreur que la dernière fois, a dit clairement qu'elle ne voulait pas d'alliance, qu'elle ne voulait pas négocier avec le reste de la gauche, et surtout pas avec le Parti communiste de Fabien Roussel, qu'elle considère comme directement responsable de son échec. On va avoir les problèmes de représentativité de l'Assemblée nationale, qui pour moi sont vraiment très aiguë depuis, depuis 30 ou 40 ans, multiliée par 10.
Alexis.
Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse de Franck Tapiro sur les deux mois qui risquent d'être longs, avec le peu de légitimité des urnes, compte tenu de la forte abstention, à mon avis, qu'il risque d'y avoir dimanche. Donc, il y aura un moment, de toute façon, de contraction, et puis des législatives où on voit déjà les grandes manœuvres, à la fois pour faire une sorte de parti unique, le parti macroniste, l'hégémonie macronienne un peu partout, et de l'autre côté, des partis divisés qui auront du mal à émerger, et puis à savoir si Marine Le Pen, qui était, rappelez-vous, déjà à l'affiche en 2017, n'a pas placé beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Donc ça pourrait être exactement la même chose si jamais c'était le même score au sortir des urnes dimanche. Donc il y a un jeu important, parce que la démocratie, c'est pas ce vote justement tous les 5 ans, c'est pas ce blanc-seing, sachant que il y aura 4 ans sans élection après ça, donc c'est quasiment un quinquennat qui se passe sans élection de mi-mandat. C'est quand même quelque chose d'assez grave, parce qu'il n'y aura aucune sanction à la politique qui aura lieu. On a le 49-3, on peut gouverner par décret, on est en état d'urgence permanente. Bref, le Parlement peut sortir des urnes, on s'en fout. Le président aura tous les pouvoirs, ou la présidente aura tous les pouvoirs. Donc l'idée de dire qu'il y aura une opposition forte, qu'on fera des choses, en 5e République, non. Ça va être très compliqué, c'est un régime présidentiel. Donc, après dimanche, il y aura certes une élection, les élections législatives, mais c'est aussi comment les citoyens français vont aussi se réapproprier le débat, vont dire peut-être qu'il est temps de créer des nouveaux partis, de changer un peu aussi les fractures politiques qui ne sont plus effectives entre gauche et droite, et que maintenant c'est souveraineté nationale, intégration européenne, c'est redistribution. Enfin voilà, tous ces thèmes-là qui vont sans doute secouer l'échiquier politique, mais au niveau de la base, au niveau des citoyens.
Bien sûr.
Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure le fait qu'il n'y ait pas de majorité claire au soir du second tour des élections législatives, comme on s'est retrouvé en 1988, souvenez-vous, quand Mitterrand a été réélu avec une majorité qui était relative. Donc on va voir, et que cette majorité se construira ensuite par un jeu de combinaison d'alliances lors de la réunion du Parlement. Ça, c'est une hypothèse, à mon avis, qu'il ne faut pas exclure, parce que le paysage politique est extrêmement fragmenté. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que les Républicains soient, même le Parti Socialiste d'ailleurs, soient aussi détruits lors des législatives qu'ils ne l'ont été lors de l'élection présidentielle, parce que d'abord, ils disposent d'un maillage territorial qui n'est pas négligeable, ensuite, parce qu'ils ont quand même des députés qui sont implantés sur le terrain et qui peuvent, pour un certain nombre d'entre eux, espérer leur réélection. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et qui, à mon avis, est ce vers quoi on court au plus vite, c'est la crise de régime. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vécu quand même un quinquennat très violent avec la crise des Gilets jaunes, le risque d'une explosion sociale qui soit puissance 10 par rapport à celle des Gilets jaunes n'est pas non plus quelque chose qu'il faut exclure. Et là, on rentre dans une autre, dans une autre phase de l'histoire. Moi, je pense qu'en effet, le quinquennat, quel que soit d'ailleurs celui qui sera élu, sera extrêmement difficile.
Ouais.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je faisais exprès de parler des présidentielles pour parler de la recomposition politique. Maintenant, sûr, il faut parler des législatives, bien entendu. Quel que soit le vainqueur dimanche, les 2 mois qui vont venir ne seront pas là uniquement pour faire des alliances, contre-alliances et puis projets. Ça veut aussi de réagir par rapport au contexte. Et je pense que le contexte risque d'être beaucoup plus dur qu'on l'imagine. Parce que fin d'année, vous pensez quand même à rembourser le PGE. On sait qu'il y a énormément de boîtes qui ont été maintenues sous respiration artificielle, qui risquent de déposer le bilan dans pas longtemps. Donc le chômage risque de repartir, etc. Ça commence déjà. Donc ces 2 mois, voilà. Donc encore une fois, on peut avoir énormément de stratégies, d'idées, de visions stratégiques entre maintenant et dimanche soir. À partir de lundi jusqu'au législatif, je pense qu'il y aura énormément de surprises et qu'on aura peut-être des additions auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui.
Ah, vous pensez ?
Même à gauche.
Même à gauche.
Bien sûr.
Il peut y avoir des...
Absolument.
Vous pensez à quoi ?
Moi, je pense que ne croyons pas que le gouvernement, par exemple, si Emmanuel Macron passe, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Je pense qu'il va falloir ouvrir, élargir énormément, parce qu'il va falloir calmer les Français, calmer la rue, calmer leur colère. Et on sait très bien que...
Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira ?
Mais on n'a pas le choix. De toute façon, ouais. À un moment, je pense que le chef de l'État, si c'est lui qui gagne dimanche, n'aura pas le choix. Mmh. Il n'aura pas le choix parce qu'on ne va pas recommencer encore un second quinquennat en pire. Donc il va falloir tout de suite donner des gages et prouver qu'on veut éteindre le feu avant qu'il ne démarre, mais il risque de démarrer justement au lendemain du deuxième tour. Voilà pourquoi je pense que ça va être très compliqué à gérer cette situation.
Ouais. Alexis, vous pensez que ça suffira ?
Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une désinvolture de la part du personnel politique de faire comme si tout allait très bien. Enfin, on est quand même, je parlais de 600 milliards de dettes, c'est quand même ça le vrai problème. L'inflation galopante sans vraiment de solution du côté de la Banque Centrale Européenne ni de la Fed, et une crise en Ukraine, une guerre en Ukraine qui peut dégénérer à tout moment. Avec une escalade qui visiblement n'est pas prête de s'arrêter, et on a l'impression que là tout ça n'existe plus, sans parler du Covid, là ça n'existe plus, mais on n'a pas toujours de solution par rapport à ce virus, donc on continue de faire comme si tout allait très bien, madame la marquise, de petits débats sur tiens on va faire une fête de la nature, tiens c'est super l'écologie, tiens parlons de l'écologie, comme ça évite de parler des sujets qui fâchent. Le sujet qui fâche, c'est comment on fait avec 600 milliards d'euros de dettes pour tenir un pays, comment on fait avec un chômage de masse, comment on fait avec une inflation galopante. Ça, c'est les vraies questions. Elles ne sont pas posées. J'espère que mercredi, pour le débat des deux candidats, ce seront des questions qui seront posées et qu'on saura un peu quelle sera la cure d'austérité qui sera proposée par l'un ou par l'autre.
Juste, je suis d'accord sur les 600 milliards de dettes, mais ça, c'est le brief de base, c'est le domaine de définition, on va dire. Mais l'équation a plusieurs inconnues. La première des grosses équations, c'est l'inflation. L'inflation, bien avec tout le contexte international, on ne va pas revenir, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça qui va vraiment jouer.
Allez, merci. Merci à tous les quatre. Ouais. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.